Express, tous les jours de lundi au vendredi à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré, alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, oui, je suis d'accord. Mais j'ai dit pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épargner, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Dina Milo, bonjour, shalom, assalam alaikum. Avant toute chose, je voudrais dire du plus profond de mon cœur et de ma pensée, grâce et gloire à Dieu, et j'exprime également toute ma gratitude aux personnes de bonne volonté à qui je souhaite bonne santé, paix et bonheur. Je retrouve ce lundi 21 août 2023. Le studio du Club de la Presse avec une grande émotion et un réel bonheur. Et j'espère que c'est pour de bon. À mes collègues Fousseni Saïbou et Pascal Komilosou, aux techniciens, à tous les confrères journalistes et autres personnes ressources, et naturellement à vous, chers et fidèles auditrices et auditeurs, j'exprime mon admiration et mes félicitations parce que vous faites pérenniser notre émission commune, le Club de la Presse, en dépit des péripéties et aléas auxquels nous tous, humains, sommes exposés de temps en temps. Pour cette journée du lundi 21 août, je retrouve l'accompagnement technique de Thomas Etekossi Datevi et Jérôme Kodjo Akucha, qui manient les différentes manettes techniques qui nous permettent de parler et qui vous permettent également de vous écouter, de nous écouter, pardon. Et je vous retrouve aussi avec beaucoup de chaleur, vos chers et fidèles auditrices et auditeurs qui êtes branchés sur Canal FM, la nouvelle génération dans Lomé et ses environs, mais également sur Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix, la voix des plateaux à Takpamé, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapan, avec l'espoir que nos amis de Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, nous retrouvent incessamment dès que leur pylône sera remonté. Et je n'oublie pas, vous qui êtes connectés de par le monde entier, par les radios numériques, Ebon Radio, Radio Le Bénin, les applications Canal FM, ou encore vous qui nous regardez directement sur la chaîne YouTube. Et avant de vous présenter la pensée du jour, plutôt les invités, nous découvrons la pensée du jour. Et c'est Jean Cocteau qui écrit que l'harmonie, c'est la conciliation des contraires et pas l'écrasement des différences. Encore une fois, l'harmonie, a écrit Jean Cocteau, c'est l'harmonie, c'est plutôt la conciliation des contraires et pas l'écrasement des différences. Jacques Laya Djakouti, qui n'est plus à présenter, mais que je présente quand même. Bonjour.
Bonjour, Sas. Bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Grande est notre joie de vous retrouver. Et grande est notre joie également de retrouver un beau studio ce matin. Je voudrais passer par ce canal, féliciter Modeste Messanvoussou,
Le directeur général de Canal FM,
effectivement, pour ce beau plateau qu'il a eu à ériger dans ce studio. Merci beaucoup, Modeste. Félicitations à Canal FM. Bonjour aux techniciens et à nos auditeurs. Tous ceux qui nous écoutent Ceux qui sont malades, qui sont également sur les lits d'hôpitaux, je leur souhaite une prompte guérison.
Merci. Comme Jacques le dit, si le studio est plus beau aujourd'hui, Harry Miaou Tchanyao, c'est que les commentaires doivent être également plus beaux en harmonie avec le nouveau studio, Harry Miaou.
Absolument. Je te salue. Je salue les confrères ici dans ce superbe studio, comme l'a dit Jacouti. Je voudrais à mon tour également féliciter le DG de Canal FM pour ce nouveau studio. Et je pense qu'il faut que les gens aient l'occasion de venir pour découvrir d'eux-mêmes la splendeur et la beauté de ce studio. Et j'avoue que dorénavant, les émissions vont être aussi belles que le studio.
Merci. Si tu l'as dit, c'est que ça doit en être ainsi. Et chaque, c'est pas commis. Didier Assogba, qui nous démentirait?
Même pas du tout. Ça fait la deuxième fois que je retrouve ce plateau. Parce que j'étais là lundi dernier. J'étais tellement émerveillé de voir ce nouveau plateau. C'est vraiment joli à voir, agréable. Et à la hauteur de Canal FM et des émissions que nous animons ensemble ici. Et je félicite également la direction générale. Je profite pour saluer nos auditrices et auditeurs qui sont fidèles à cette émission. Certains qui nous écoutent même à des endroits où nous n'imaginons des fois pas et qui nous reconnaissent par nos voix. Je salue nos amis des services de passeport. Je les ai visités il y a quelques jours, j'en sais quelque chose.
Ah, tu t'apprêtes à aller quelque part, Didier?
Non, même pas du tout. Ma pièce s'est expirée depuis 2 ans. J'ai envie de renouveler simplement. Donc, j'ai envie de renouveler. Si quelqu'un veut m'inviter quelque part hors du Togo, pourquoi pas. Je souhaite bon retour à SAS, à cette émission. C'est un plaisir de te revoir aujourd'hui. Ça fait vraiment chaud au cœur. Bon retour. Et mes condoléances à mon neveu qui était en deuil depuis quelques jours. Il a caché, mais bon, je profite ici pour lui dire mes condoléances. Nous sommes de cœur avec lui.
Nous nous associons tous à Harry Miaou Tchanyao pour ce deuil qui a frappé sa famille. Un de ses frères s'en est allé, mais nos prières l'accompagnent. Didier, si tu as envie de renouveler ton passeport, je sais que tu le sais, mais je te rappelle qu'en plus des pièces que tu devras rassembler, il faudra trouver 30 000 francs pour aller payer la caution.
Oui, c'est surtout ça. Non, on va payer.
Eh bien, le dernier confrère aujourd'hui, c'est Kodjovi Jean-Baptiste Atisso, du corps diplomatique News. Bonjour.
Bonjour, Sas. Ravi de te retrouver ce matin en forme. Et depuis samedi, on était en contact et tu nous as rassuré que ce matin, tu serais au studio. Donc, Dieu aidant, tu l'es vraiment. Donc, on remercie le Créateur pour ce qu'il nous a fait.
Et qu'il va continuer à nous faire.
À le faire, naturellement. Et aussi profiter de cette occasion pour saluer nos auditeurs qui nous écoutent à travers le monde entier.
Merci à tous les chers et fidèles auditeurs, surtout certaines personnes que je voudrais nommer, mais qui souhaitent demeurer dans la discrétion. Je vous salue du fond de mon cœur. Avec l'espoir que ce retour, c'est pour de bon, jusqu'à ce que nous atteignions la retraite. Je ne sais même plus à quel est l'âge des journalistes du privé, Harry Miaou Tchanyao, toi qui es président du CONAP. C'est à quel âge les journalistes du privé au Togo vont à la retraite?
Mais quand ils ne se sentent plus en mesure de travailler, de toute façon, je ne crois pas qu'on ait limité l'âge. Nous avons travaillé ici avec... à son âme, le doyen Lucien Mensah, jusqu'à 74-75 ans, et qui continuait pas à venir presser ici. Donc, nous y sommes, que Dieu nous donne santé et longue vie pour qu'on continue par offrir ce que nous faisons habituellement.
Merci. À nos comme vous dites, la carrière du journaliste privé, c'est nos limites, tant que nous avons la force et l'énergie. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder... d'abord, c'est la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. Nous associons à cela les déplacés, toutes les victimes suite aux violences humaines de toutes sortes de par le monde. Et nous allons un peu regarder la situation au nord du Togo. L'actualité numéro 1 en Afrique depuis près d'un mois, c'est le Niger. ce coup d'État, tentative ou coup d'État, je ne sais pas, vous me direz. C'était le 26 juillet. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les initiatives de la CEDEAO, les réactions de part et d'autre. Et nous allons continuer avec le feuilleton des partis politiques qui tiennent leur congrès statutaire. Le dernier en date, c'est le nouvel engagement togolais avec son président Thierry Tama. Et Didier Assogba, comme je présume que, comme c'est la mode, Thierry Tama a été reconduit à la tête de son parti, n'est-ce pas?
Non, en fait, ce congrès qu'ils ont tenu le samedi était un congrès ordinaire du parti, donc c'est pour...
C'était pas un congrès électif.
C'était pas un congrès statutaire électif, donc le congrès électif aura lieu, ont-ils dit, dans quelques semaines, pour ne pas dire dans quelques jours, parce que ce congrès ordinaire précède normalement le congrès statutaire électif. Donc, Thierry Tama est toujours président du NET. On espère que peut-être il passera la main, parce que selon les statuts de son parti... il est dans son dernier mandat. On verra si en septembre prochain ou fin septembre prochain, il passera la main à quelqu'un d'autre.
Nous sinon, y arriverons, mais j'ai suivi les reportages et une phrase que j'ai pu retenir de leur congrès, c'est un slogan quand ils disent honnête, soyons les acteurs du changement. Ça m'a plu. Nous voulons beaucoup changer au Togo, sauf que nous demandons trop souvent aux autres de changer. Et si nous pouvons accompagner ce changement par nous-mêmes, ce serait très bien. Nous y arriverons, mais commençons pas.
Ça, si tu permets, oui, je Jean voudrais Baptiste. Quand même renchérir ce que tu viens de dire à propos du NET, pour dire qu'un grand homme indien, Mahatma Gandhi, aussi avait dit que soyez vous-même les acteurs du changement que vous voulez avoir.
Merci, merci beaucoup. Nous demandons qu'on change beaucoup, qu'on change nos studios, notre studio au Club de la Presse. Les techniciens demandent qu'on change leur micro, leur table à la maison. Les enfants demandent qu'on change le montant de l'argent de poche. Je ne veux pas parler des femmes, de nos épouses. À nos mères, nous demandons de rendre notre ville plus belle. Mais est-ce que nous-mêmes, est-ce que nous entretenons notre maison? Est-ce que nous entretenons... la devanture de notre maison. Est-ce que nous entretenons la rue? Et puis, au gouvernement, je ne sais pas, tous les jours, changez-nous ceci, faites-nous ceci, mais est-ce que nous-mêmes nous comportons en citoyens conséquents? C'est un débat citoyen très intéressant. Mais Didier Assogba, Harry Niaouchanyaou, Jacques Laya, Jacques Coutier, Kodjovi, Jean-Baptiste Atisso, aujourd'hui, 21 août, de par le monde, la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. Et Jacques, malheureusement, depuis près de 30 ans, sinon voire 40 ans, 50 ans, le monde est confronté à des violences, à des terrorismes de toutes sortes, chez nous aussi au Togo, du Mali jusqu'au Niger, Burkina, un peu partout, Nigeria, Cameroun avec Boko Haram, et puis nous-mêmes, au nord du Togo, nous sommes confrontés à cette triste réalité depuis des années avec les réfugiés qui nous viennent du Burkina voisin, mais également nos propres frères et sœurs, les Togolais, qui se retrouvent déplacés pour cause du terrorisme. Nous devrions avoir une pensée vraiment à leur endroit.
C'est vrai, ça, il faut reconnaître que cette journée serait une bonne chose, mais il faudrait, vous avez bien fait d'introduire la prise de conscience à tous les niveaux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette prise de conscience, il faut reconnaître que nous allons rester toujours à nous entre-déchirer tous les temps par, effectivement, des intérêts. C'est-à-dire que ce qui déchire aujourd'hui le monde, au fait, c'est les intérêts. Le moment où...
Les intérêts sur fond d'égoïsme, d'orgueil.
Non, mais au fait, c'est ça. Le jour que l'homme va se ressaisir et dire que le peu qu'il a, il peut partager ça avec son frère, avec sa sœur, je vous dis que nous n'aurons pas de problème dans le monde. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, vous allez voir une personne veut avoir tout au détriment des autres. Et c'est ça qui crée les problèmes. Vous voyez? Et aujourd'hui, il y en a qui veulent écraser également les autres. En voulant écraser les autres, vous savez, les autres là aussi ne sont pas des enfants, ils ne vont jamais accepter. Donc je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, vous avez bien fait de parler de la situation à l'intérieur de notre pays, plus précisément au nord, avec ces attaques. Je crois que depuis un certain temps, ces attaques-là ont quand même diminué, mais entre-temps, ça a encore repris. Mais Dieu merci, féliciter nos forces de l'ordre par rapport à ce qu'ils font là-bas. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas seulement le Togo, vous l'avez si bien dit, vous avez indiqué le Niger, vous avez parlé du Mali, vous avez parlé également du Burkina Faso. Il faut avoir également une pensée, effectivement, à ces déplacés-là, surtout les déplacés internes. Quand vous allez un peu partout, au Burkina, au Togo, au Mali, si vous voyez ces déplacés internes, ça, je vous dis, ça fait quand même pitié. Donc, je crois que plaise à Dieu à ce que lorsque vous avez quand même le peu de choses que vous avez avec vous, essayez de partager avec les autres. Lorsque vous partagez ça, je vous dis, le monde sera équilibré. On n'aura plus de problème. Vous voyez, donc, les gens viennent, par exemple, nous ravir de nos richesses. Et ces mêmes personnes ne veulent pas qu'on soit développé. Et c'est là que naissent effectivement les conflits. Je crois qu'il faudrait que, Africains que nous sommes, nous puissions commencer déjà par prendre conscience de ce que nous sommes, ce que nous voulons et là où nous allons.
J'ai plutôt l'impression d'écouter un prêche d'un pasteur dans une église. Didier Assoba, les victimes du terrorisme, hein, c'est un peu partout, hein, au Mali, au Burkina, au Nigeria, au Niger. L'actualité ces derniers jours, hein, nous en a encore fait voir. Et ces victimes, ce sont les militaires qui sont au front, mais également les populations civiles, avec toute la chaîne des conséquences qui rejaillit sur nous. Mais l'actualité, c'est le nord du Togo qui est confronté à ce terrorisme. C'est vrai que depuis quelque temps, le gouvernement a choisi d'adopter un peu la loi de l'omerta, de ne plus communiquer. Mais nous sommes en 2023, il y a les réseaux sociaux, il y a la technologie, et de temps en temps, nous apprenons les développements du front, comme il y a quelques jours, cette tentative des terroristes qui a été enrayée par les airs. Je ne sais pas si c'était un aéronef ou bien un drone qui a permis aux Togolais quand même de neutraliser ces terroristes assaillants.
Oui, ce qu'il faut noter sur les derniers développements de ce qui se passe là-bas au nord Togo, c'est l'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Parce que de par le passé, on voyait, et la plupart des briefings et de quelques informations que nous avons souvent nous renseignent que très souvent les descentes sur le terrain étaient opérées, c'est juste par l'artillerie et les soldats togolais prenaient le sol pour aller à la rencontre ou pour aller en découdre avec les terroristes. Et très souvent sur la voie, il y a les engins explosifs improvisés et d'autres choses qui sont placées, et donc qui fait que le nombre de militaires perdus de notre côté est assez considérable très souvent. Et depuis quelques jours, on a constaté qu'il y a eu un renouveau dans l'aperçu même de ce phénomène-là en équipement de nos forces de défense et sécurité qui maintenant explorent l'environnement là-bas à partir des airs. On a parlé des hélicoptères de combat qui sont donnés, et ce qui a d'ailleurs permis d'enrayer cette tentative de vol de bétail et une autre tentative d'attaque dans le week-end, le samedi précisément. Et donc oui, il y a du renouveau sur le front là-bas, et c'est tout ce que nous demandons à notre État et à nos États. On a vu que s'il y a un léger mieux au Mali et au Burkina Faso, c'est parce que ces États-là ont dû doter leur armée de matériel, d'équipement de dernière génération, notamment les drones, les avions de combat qui leur permettent d'aller explorer, d'aller localiser l'ennemi avant de pouvoir agir. Et donc chez nous aussi, je ne veux pas dire qu'on a copié sur les autres, mais il y a ce renouveau là qui permet aujourd'hui d'éviter des pertes assez considérables dans nos rangs. Et donc c'est tout à l'honneur de l'État togolais et des militaires au front. Donc ce que nous allons souhaiter, c'est que ça continue, et que au-delà des équipements, qu'on ne minimise pas la collaboration possible qu'on peut avoir sur le terrain là-bas avec nos frères et sœurs qui vivent dans la région là-bas, parce que après tout le meilleur des renseignements, c'est pas forcément le matériel technologique qu'on peut avoir, mais de bouche à oreille, ce qu'on peut avoir.
C'est d'abord l'humain.
Voilà, c'est d'abord l'humain, les personnes qui vivent dans la zone et qui peuvent facilement identifier l'ennemi, l'étranger qui s'infiltre là pour opérer ses basses besognes. Donc, je pense que l'État doit continuer à développer cette symbiose entre les forces de défense et de sécurité et les populations qui vivent là-bas. Ce sera tout à l'honneur de notre pays qui pourra repousser les ennemis jusqu'aux limites des frontières.
Nous sommes de tout cœur avec nos forces de défense et de sécurité, mais Harry Miaou, il est démontré qu'aucun pays, seul ou en association avec d'autres, ne saurait arriver à bout du terrorisme uniquement par la force armée. Il faut y associer les populations, comme Didier, comme il le disait, d'autant plus que Jacques Laya le rappelait, faire en sorte, généralement, le terrorisme a commencé à prospérer sur des fonds de frustration des populations, quand certaines personnes s'estiment exclues du gâteau national par suite des injustices. On ne le dirait pas, on peut le dire que le gouvernement est conscient de la situation. C'est pourquoi, à côté de la réaction militaire, le gouvernement a élaboré ce programme d'urgence pour la région des savanes qui est évalué autour de 150 milliards déjà, que nous saluons et sur lequel nous insistons à chaque fois que les ressources de ce programme spécial aille effectivement au bénéfice des populations pour corriger les manquements, les retards que l'État a accusés dans ces régions à l'endroit de nos populations.
Absolument, oui. Je crois que l'État est en train de faire un travail de titan dans l'extrême nord de notre pays et qui est secoué par ces attaques terroristes et qui, malheureusement, tout le temps nous endeuille et nous crée la désolation. Je voudrais dire que, au-delà de tout ce qui a été fait dans cette zone, il va falloir que nos États, parce que tout à l'heure on a dit que le Togo s'est équipé, et Didier a dit également que le Mali, le Niger, comme le Burkina se sont équipés, ce qui fait qu'il y a mieux être à ce niveau-là. Mais je crois qu'il n'y a pas de mieux être. Même le Nigeria aujourd'hui, que nous appelons le géant, est inquiété par le terrorisme. On ne sait comment ça va évoluer avec le temps. C'est pour cela que, à chaque fois, j'ai dit qu'il faut une action unitaire dans la sous-région. Vous voyez que les gens qui font les coups d'État, les gens qui disent ça, prennent pour socle, premier, le fait qu'on ne soit pas en train de combattre efficacement ou qu'on ne donne pas les moyens nécessaires pour aller lutter contre le terrorisme. Donc, nos États doivent être solidaires dans le combat et faire en sorte que, dans la dynamique de cette solidarité, qu'on puisse traquer par tous les moyens les terroristes. Parce que quand ils sont coincés au niveau du Burkina, c'est pour cela qu'ils cherchent à venir au Togo. C'est pour cela qu'ils veulent aller au Bénin. C'est pour cela qu'ils cherchent des tentacules au Ghana et un peu partout. Mais quand on va ensemble les coincer, nous allons avoir ce mieux-être dont Didier parle. Et je crois profondément et fondamentalement qu'on peut, si on a la volonté dans la sous-région, mettre les actions en solidarité et aller combattre. J'ai souvenance que le Togo, le Ghana et le Burkina, entre-temps, s'étaient mis ensemble pour essayer de traquer les terroristes.
Il y a dans ce sens l'initiative d'Accra,
qui avait été
avec un certain accompagnement des États-Unis.
Oui, je crois que c'est des actions comme ça qu'il faut mener. Et par ces actions, on pourra en finir avec le djihadisme. Et si on ne le fait, chaque pays est laissé à son sort. Et les armées sont laissées à leur sort. Vous voyez que quand les gens veulent aller au Niger, ils ont voulu qu'il y ait cette solidarité-là. Alors qu'à mon avis, on peut mettre en valeur cette solidarité pour aller attaquer l'ennemi commun à l'Afrique, l'ennemi commun à la sous-région, l'ennemi commun qui déstabilise nos régions, qui nous rétrograde à tout niveau. Donc, il faut aller, il ne faut pas laisser les États à leur sort. Parce que avant, quand on a commencé par parler du terrorisme, j'ai souvenance, nous étions à Lomé ici, nous étions à Dapaon, nous étions au Togo à dire que c'était dans le Sahel que ça devait se passer. Voilà, aujourd'hui, nous avons le terrorisme à notre main. Voilà que le Bénin, là également.
voilà que les Ghanais aussi en souffrent. Donc ça veut dire que si rien n'est fait, toute la région va être pourrie. Et que les chefs d'État et que toute la communauté, personne ne peut rien. On va rester là.
Merci, à merci, fuir nos propres Karim Miaou. Jean-Baptiste Kodjovi, l'action concertée des États, notamment dans la sous-région ouest-africaine, nous l'avons souhaité, mais nous ne l'avons jamais eu. Tous les États de la CEDEAO se concerter, se coaliser contre le terrorisme, mais il a suffi ce dernier coup d'État du Niger, au Niger, pardon, pour que les pays de la CEDEAO décident de mutualiser leurs énergies à tenir des sommets extraordinaires entre chefs d'État ou bien des conférences des chefs d'État-major, pas pour aller en guerre contre le terrorisme qui nous dévaste, mais plutôt pour aller chercher à restaurer le président Mohamed Bazoum qui a été déposé par sa propre garde présidentielle depuis le 26 juillet dernier.
Oui, ça, je crois que j'ai écouté religieusement le développement de mes confrères, mais il y a un pan du sujet que nous devons analyser, c'est que c'est l'hypocrisie de nos chefs d'État, si on peut le dire ainsi, parce que combattre le terrorisme ensemble, ce serait l'idéal. Mais quand vous fouinez à fond, je crois qu'au-delà de cette lutte commune, il y a des non-dits. Et ces non-dits, c'est la protection des pouvoirs. Donc, chaque chef d'État, au gré de ses intérêts, au gré de ce que le chef de l'État vise, alors cherche à avoir des partenaires qui, soit vont le protéger pour le maintenir au pouvoir, et au même moment protéger l'intérêt de ce partenaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parler d'une action commune pour lutter contre le terrorisme, à mon avis, je pense que ça n'aboutirait pas parce que les intérêts sont divergents. Mais si...
Mais et pourtant, nous sommes tous victimes...
Oui, du même fléau. Mais ça, c'est la triste réalité. Nous sommes tous victimes de ça. Mais c'est que, si on remonte un peu l'histoire, depuis 2012, que ça, le terrorisme a commencé par menacer le Mali, je crois que les autres pays faisaient l'effort d'envoyer, au lieu de penser réellement à cette force commune de la CEDEAO qui pourrait aller là-bas et traquer les terroristes pour circonscrire ce fléau au niveau du Mali seul, mais ils n'ont pas fait. Bon, ils envoyaient de temps à autre des contingents.
La MINUSMA
aussi.
Les initiatives prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
C'est ça. Mais toutes ces forces n'ont pas... ne sont pas parvenus réellement à endiguer le phénomène au niveau du Mali. Et aujourd'hui, c'est comme cela a étalé ses tentacules dans beaucoup de pays de la sous-région. Donc, c'est pour vous dire que dans la réalité des faits, si les chefs d'État sont vraiment sérieux et vraiment déterminés à faire une lutte réelle, commune contre ce phénomène, je crois que ils peuvent le faire, mais c'est que au-delà de ça, ce qui les empêche de le faire depuis 2012 que cela a commencé, c'est que les gens sont là pour protéger leurs intérêts.
Merci, mais il faut quand même rappeler que même si l'initiative n'a pas été prise au niveau de la CEDEAO, les pays directement concernés, notamment le Niger, le Mali, le Burkina, le Tchad et la Mauritanie, ont mis sur pied le G5 Sahel. Et ils ont voulu ces pays ont voulu coaliser pour lutter contre l'ennemi commun, mais ils ont recherché des partenariats un peu partout et nulle part ils n'en ont trouvé, ni aux Nations Unies, ni devant l'Union Européenne, encore moins devant l'Union Africaine.
Oui, c'est
la triste réalité.
C'est le terrorisme
qui nous dévaste. Et puis, est-ce que c'est de cause à effet? Depuis 2000, combien là au Mali avec les coups d'État? En quelques années, ça fait 6 coups d'État en Afrique de l'Ouest, 2 au Mali avec Assimi Goïta, 2 au Burkina avec Damiba qui se retrouve chez nous ici, et son
Ibrahim Traoré.
Traoré depuis, 1 en Guinée et le nouveau cas en date, c'est le Niger. C'est vrai que tous ces coups d'État avaient été énergiquement condamnés, les pays suspendu et de la CEDEAO et de l'Union africaine et plus tard, mais le dernier qui vient de surgir au Niger depuis le 26 juillet, fait soulever beaucoup de réactions dans tous les sens, avec Jacques Gouti, la CEDEAO qui a déjà tenu par deux fois des sommets extraordinaires des chefs d'État pour réfléchir sur le cas du Niger, les chefs d'État-major des armées de la sous-région ouest-africaine qui sont également retrouvés par deux fois, avec tout ce débat, est-ce que la CEDEAO devrait aller restaurer Mohamed Bazoum au pouvoir, quitte à demander aux militaires nigériens de retourner dans leur caserne, ou bien aller faire la guerre à la nouvelle junte. Le débat est tout ouvert. Alors, sur le sujet, Mega Info écrit aujourd'hui que les putschistes au Niger jouent au malin. Et Mega Info rappelle que le protocole additionnel de la CEDEAO exclut toute transition forcée imposée par les militaires. Et de l'autre côté, Togo Matin, qui parle lui aussi de la crise au Niger, avec cette précision que Fort Gnassingbé fait encore la différence. Jacques, donc il y a ces deux courants. Est-ce que la CEDEAO doit jouer au va-t-en-guerre, ou bien est-ce qu'on doit user de diplomatie pour que les militaires nigériens retournent dans leur caserne et que Mohamed Bazoum retrouve son pouvoir?
Je voudrais d'abord nous inviter, nous, c'est-à-dire les journalistes, les analystes politiques au Togo et puis les hommes politiques au Togo. C'est vrai que ce qui se passe dans la sous-région avec ce coup d'État au Niger, nous voyons la position des uns et des autres sur ce sujet-là. Je voudrais nous inviter effectivement à la prudence et à la retenue. C'est vrai que ça fait très mal sur ce qui se passe au Niger. Il est de bon ton que nous puissions dénoncer ce qui se passe, mais essayons d'aller d'une façon diplomatique pour effectivement trouver gain de cause par rapport à cette situation. Surtout lorsque nous sommes sur les plateaux, sur les réseaux sociaux, tout ce que nous disons par rapport à ce qui se passe au Niger, prenons effectivement le temps d'analyser et de pouvoir donner des réponses et des solutions qui puissent effectivement aider les Nigériens à sortir effectivement de ce problème-là qu'ils sont en train de traverser. Inviter également le chef de l'État togolais. C'est vrai qu'il est en train de jouer actuellement une diplomatie pour que le Niger puisse retrouver effectivement la stabilité. Mais l'inviter également à la prudence. Être très prudent, parce que il est dans une CEDEAO où ce n'est pas tous qui sont d'accord avec ce qu'il est en train de faire actuellement. Tous ne sont pas d'accord. Mais qu'il soit aussi également prudent dans la prise de décision, surtout par la prise également de position sur le Togo. Parce que depuis un certain temps, nous le lisons sur les réseaux sociaux, nous écoutons de gauche à droite, mais on n'a pas vu notre ministre des Affaires étrangères sortir par exemple une note pour nous donner la position de M. Fort Gnassingbé par rapport...
Et de notre pays.
De notre pays. Voilà, c'est les spéculations que nous lisons un peu de gauche à droite. Il faudrait aujourd'hui que notre président également soit vigilant, soit prudent par rapport à cette situation. Et de dire maintenant à la CEDEAO, il est vrai, ça, ce qui se passe aujourd'hui au Niger, c'est quand même triste. Parce que quand vous prenez par exemple les Nigériens, la plupart de nos compatriotes togolais sont là-bas. Les Ghanéens sont là-bas. Les Béninois sont là-bas. Et les Burkinabés, tous.
Comme eux aussi sont un peu partout chez nous dans la sous-région.
Chez nous dans la sous-région. Ça, c'est quand même un peu aberrant et triste de constater qu'entre Africains, qu'on puisse faire un blocus jusqu'à ce qu'on dise que la nourriture ne peut même pas rentrer au Niger. Les médicaments ne doivent pas rentrer au Niger. Il est vrai, c'est un coup d'État que les militaires ont fait. Mais chercher quand même des solutions par rapport à ce coup d'État et laisser quand même les populations vivre. Aujourd'hui, on dit bon qu'il y a une force en attente qui va aller rétablir Bazoum. Mais est-ce que si les Nigériens meurent, qui vous allez rétablir, vous rétablissez par exemple Bazoum? Bazoum va régner sur qui? En fait, c'est ça le problème. Aujourd'hui, j'ai vu sur une chaîne en Côte d'Ivoire où on a commandé des oignons de la Thaïlande pour servir les Ivoiriens. Alors que l'oignon pourrit au niveau de la frontière entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Vous voyez que c'est une aberration. Vous prenez par exemple le cas.
Il n'y a pas de frontière directe entre la Côte d'Ivoire et le Niger, mais c'est du côté du Burkina Faso, plutôt du côté du Bénin et du Nigeria qui ont imposé cet embargo et d'où nous apprenons que les produits sont en train de pourrir comme ça.
Maintenant, on dit qu'il faut rétablir par exemple l'électricité chez le président Bazoum et lui permettre également d'avoir ses médicaments. Ça, je ne suis pas un va-t-en-guerre pour dire à ces poutistes-là de ne pas donner les médicaments à Bazoum ni de ne pas lui fournir l'électricité. Mais l'électricité a été coupée par le Nigeria, sans parler
Nigeria. À tout le pays.
À tout le pays. Bon, comment vous voulez que lui, on puisse le servir et les autres populations vont faire quoi? Et l'autre aspect, c'est que la CEDEAO oublie, vous êtes là aujourd'hui à vous préoccuper d'une seule personne. D'une seule personne. Et vous oubliez toute une population.
Mais on te dira que la CEDEAO défend plutôt le principe du respect sacré du scrutin démocratique et qu'aucun militaire ne devrait se hasarder renverser l'ordre établi.
Je suis d'accord avec toi, Sass. Ce que les chefs d'État devaient faire, depuis un certain temps, il fallait regrouper déjà les universitaires pour qu'ils puissent réfléchir et se dire pourquoi il y a les coups d'État. Pourquoi les coups d'État? En fait, c'est ça le problème. Il faut chercher d'abord les causes avant de chercher les solutions. Où il y a une cause qui est cachée derrière les coups d'État, ça. Si on cherche, ils vont trouver. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se voie la face. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça, tu ne peux pas manger et tu tiens l'os. Tu attends que l'os là tombe avant que je ne prenne. Si j'ai la force de retirer effectivement ce que tu es en train de manger, je vais le faire.
Ça, je ne vais pas attendre. Et surtout qu'il y a des
signes. Je ne vais pas attendre pour qu'on me donne l'ordre. Au fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Merci Jacques. Alors, Jean-Baptiste. La CEDEAO, dès les premières heures de la tentative de coup d'État, devenue coup d'État depuis, parce que les militaires, ils se sont constitués en un conseil national, ils ont nommé un gouvernement. Il y a quelques jours, le chef de la junte a dit qu'ils allaient dans le sens d'une transition de 3 ans, un peu comme ce qui a commencé à se faire au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Alors, sur la CEDEAO, on nous a dit que les chefs d'État se sont réunis par 2 fois. On a les communiqués officiels de la conférence. Mais sur le Togo, comme le disait tantôt Jacques, ni le chef de l'État, ni encore son ministre des Affaires étrangères, n'a sorti un communiqué pour dire « Oui, le Togo s'aligne sur les positions des décisions de la conférence des chefs d'État » ou bien « Le Togo a une certaine nuance ». Alors que Faure Gnassingbé et son gouvernement nous doivent, à nous quand même citoyens, sa position claire sur ce sujet. D'autant plus que c'est un pays voisin, frère.
Oui, justement, vous savez, la position officielle du gouvernement togolais.
Toi, tu la connais?
Non, parce que je ne la connais pas. Parce que, pas plus qu'avant-hier, je discutais avec quelqu'un et puis la personne me demande, ah, vous êtes du corps, votre organe, c'est corps diplomatique news. Maintenant, quelle est la position officielle du Togo? J'ai dit, ah, franchement, jusqu'alors, je n'ai pas un communiqué officiel du gouvernement de notre ministre des Affaires étrangères ni du chef de l'État. Mais ce que je sais, c'est que bon, il y a eu une médiation de la part de notre chef d'État qui a permis à une délégation de la CEDEAO de se rendre à Niamey le samedi dernier. Mais officiellement, nous n'avons pas un communiqué du gouvernement qui dit que réellement le chef de l'État a joué à la médiation. On n'a pas ça officiellement de la part du gouvernement togolais et donc c'est ce que j'ai répondu à la personne. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de position officielle. Donc c'est les spéculations qui ont cours de gauche à droite. Et ce qu'on sait, c'est que la CET, la conférence des évêques du Togo, et l'autre a sorti un communiqué et on connaît leur position. C'est ça ce que nous pouvons dire, mais pour ce qui concerne le gouvernement, on n'en a pas. Mais ce qu'il faut analyser, c'est que ce même samedi où nous apprenons qu'il y a une délégation de la CEDEAO qui s'est rendue à Niamey à rencontrer la jointe et puis Mohamed Bazoum, c'est ce même samedi que le chef de la jointe, le général Tiani, est monté au créneau pour dire que nous allons organiser une transition de 3 ans et au bout de laquelle nous tiendrons des élections. Et au même moment, si la CEDEAO se hasarde à envoyer
ces troupes, ce ne serait pas une partie de plaisir.
Donc c'est pour dire que la junte n'a pas peur de la CDAO. C'est ça.
Merci. C'est une affaire entre militaires. Et surtout quand on dit qu'à Niamey, le palais présidentiel est logé au sein d'une garnison militaire au centre même de la ville de Niamey. Alors, comment est-ce que les armées de la CDAO pourraient y aller par mer, par air ou par terre, aller déloger les militaires, restaurer Mohamed Bazoum, sans qu'il y ait de la casse? C'est une question. On aurait peut-être besoin d'un James Bond à la CDAO pour voir. Ça, alors, sur les positions des va-t-en-guerre, Didier Assogba, ce que nous apprenons, c'est que le Nigeria se dit déterminé à envoyer des troupes, tout comme le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et il y a un pays comme le Cap-Vert qui a dit officiellement qu'il est opposé à cette position et qui a boycotté même la conférence des chefs d'état-major. Bon, au Togo, nous l'avons dit, d'opposition officielle, mais les autres pays comme le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, eux disent quoi?
Ben, le problème au niveau de la CDAO, c'est ce que vous êtes en train de décrire. On a une organisation communautaire décrédibilisée et complètement divisée actuellement, et qui notamment laisse son sort être joué par quelques individus.
Non, ce sont des chefs d'État. Non, ben, des présidents et des chefs d'État-major des armées.
Il n'en demeure pas moins vrai que ce sont des individus avant d'être des chefs d'État. Donc, je parle en termes de personnalité, pas en termes de leur titre de chef d'État. Donc, si tu veux, par quelques chefs d'État, peut-être que ça convient, par quelques chefs d'État qui voient en fait. Qui voient en fait dans ce qui se joue au Niger une sorte de leur fin et qui ont peur de beaucoup de choses. Vous savez, on a au Nigeria un monsieur Tinubu qui est arrivé au pouvoir dans les conditions qu'on connaît et qui continue.
Il a été élu démocratiquement, même si le taux de participation a été des plus faibles.
Mais les contestations continuent là-bas au niveau du Nigeria, avec des recours pas possibles devant des cours là-bas au Nigeria pour invalider ces élections. Donc, cette affaire du Niger est un peu comme une bouée de sauvetage pour Bola Tinubu qui s'y accroche juste pour camoufler ce qui se passe en interne là-bas au Nigeria. Donc le Nigeria est beaucoup plus en crise que le Niger. À part le terrorisme, il n'y a pas de crise politique avant ou jusqu'à ce jour. Si on laisse cette affaire de Bazoum, il n'y a vraiment plus de crise politique là-bas. Le Nigeria continue d'avoir une crise politique en plus de Boko Haram, qui occupe une bonne partie du pays là-bas et qui est ingouvernable vers le nord du pays, avec une armée qui s'acoquine avec les terroristes pour faire la plupart des affaires. Donc il veut juste se sauver la face en devenant un président de la CDAO internationalement, plus démocrate que ce qui se passe en interne. Mais de l'autre côté, nous avons un président du Bénin qui n'a pas d'autre choix que de s'aligner derrière ce qui se passe au Nigeria. Parce que vous vous souvenez que la frontière entre le Bénin et le Nigeria était fermée depuis de nombreuses années sous l'ancien président Buhari, avec tout ce qu'on reprochait au Niger et les hommes d'affaires au Bénin et les hommes d'affaires et les affaires qui se passent là. C'est Bola qui est arrivé et qui a concédé à l'ouverture des frontières avec le Bénin. Et donc le président Talon n'a pas intérêt à se mettre encore en difficulté avec son homologue de l'autre côté, parce que l'économie au niveau du Bénin va encore prendre un autre coup. Donc il joue un peu cette affaire là pour son pays, pour l'intérêt de son pays beaucoup plus. Mais la Côte d'Ivoire, si nous prenons le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème assez profond. La Côte d'Ivoire, on se demande si c'est véritablement un pays qui se trouve en Afrique, parce que vous pouvez vous poser cette question au vu des positions à chaque fois que le président de la Côte d'Ivoire prend à chaque fois qu'il y a un souci en Afrique. Notamment, on a vu ce qui s'est passé, le conflit avec le Mali, les réactions lors du coup d'État au niveau du Niger, au niveau Burkina Faso, c'est pratiquement les mêmes choses. Mais quand ils ont fini le sommet d'Abuja la dernière fois, combien de chefs d'État, y compris le chef d'État Nigeria, sont rentrés dans leur pays pour animer une conférence de presse pour annoncer qu'ils envoyaient et des militaires et de la nourriture et de l'argent pour aller attaquer le Niger. Il n'y a que Alassane Ouattara seul.
Alors pas le président en exercice.
Alors il n'est pas le président en exercice de la CDAO et il n'est pas le porte-parole non plus de la CDAO et on se demande à quel titre il va animer une conférence de la conférence de presse pour annoncer qu'ils ont décidé, lui, et puis il a déjà mobilisé des soldats pour envoyer là-bas. Alors qu'aucun autre chef d'État n'a animé une conférence de presse pour annoncer une position officielle. Mmh. Chaque chef d'État dans la souris en train de jouer, même le Nigeria t'en parle. Mais depuis quelque temps, Bola Tinubu a mis beaucoup d'eau dans son Yamakoudi, je paraphrase Alassane Ouattara. Au niveau du Togo, oui, vous voyez, le chef de l'État togolais joue un peu à la prudence. En même temps, il ne dit pas non aux positions officielles de la CDAO, mais derrière, il est en train de jouer, on a vu, c'est connu, diplomatie pour que la CDAO et les militaires au pouvoir du Niger, au pouvoir au Niger, puissent prendre langue pour une résolution pacifique de la crise. Vu, on connaît la position du Libéria, qui n'est pas pour une intervention militaire. Le monsieur de la Sierra Leone, qui est également en difficulté, lui, là-bas, veut se prononcer, lui aussi, sur la crise au niveau du Niger. Donc, on voit moins la Sierra Leone. Le Cap-Vert, c'est clairement pensé dessus. Oui. Et la Guinée-Bissau, voilà, l'autre, il dit que son ami, c'est Macron. On ne sait pas véritablement, au final, ce qu'il doit dire, parce que son chef d'état-major a participé moins à la réunion de d'Accra la dernière fois. Donc, vous voyez qu'il n'y a que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le Bénin, et le Nigeria, beaucoup moins, qui sont aujourd'hui pour une intervention militaire. Et on se demande pourquoi les 4 ou les 5
juste
pays...
Juste compléter que, juste après avoir animé sa conférence de presse, pour jouer au musclé contre le Alassane Ouattara et son avion pour se rendre où?
En France.
C'est ça. Et Nari Niaou Tchanyaou. Sur le Togo, c'est vrai que Faure Gnassingbé a participé à la conférence, aux deux conférences des chefs d'État sur la situation au Niger. Alors, comme le disons, il n'y a pas de communiqué officiel qui nous situe si le Togo s'aligne sur la position de la conférence des chefs d'État ou bien si le Togo a une position beaucoup plus nuancée. Mais d'après ce que nous écoutons à gauche et à droite, dans les médias, sur les réseaux, il semblerait que Faure Gnassingbé jouerait plutôt à tisser des ponts entre lui ou bien la sous-région et le Niger. Certains avancent même que c'est lui qui aurait facilité la dernière visite d'une délégation de la CDAO au Niger. Il y a beaucoup de conditionnels, beaucoup de supputations. Et bon, qu'est-ce que toi tu en sais? Seulement, il faut peut-être rappeler que avant le Niger, Faure Gnassingbé avait adopté une position similaire pour ce qui concernait le Mali, et qui avait produit même des fruits heureux, notamment la libération de ceux que le Mali accusait de terroristes ou bien d'assaillants, et que la Côte d'Ivoire nommait plutôt ses militaires, les 49, qui ont été libérés grâce aux efforts du Togo.
Ça, je crois qu'il faut que nous ayons le courage de le dire. Ce n'est pas aisé d'être journaliste quand on est dans un pays comme le Togo. Vous voyez que nous sommes contraints de faire avec les informations sur les réseaux sociaux. Alors que d'ailleurs, nos tests interdisent même de faire foi aux réseaux sociaux. Depuis que la crise du Niger a commencé, j'avoue que nous faisons, je ne sais pas, de l'à peu près, puisque du charlatanisme. Ce que nous disons par rapport au Togo n'est pas vrai. Nous sommes obligés de dire les choses avec pincette, sous peine qu'on nous traque d'avoir donné des informations non vérifiées, irréalistes. Tout ce qu'on a dit, mais ce n'est pas les Togolais qui le disent. C'est sur Internet, c'est sur YouTube, c'est des gens, des activistes qui nous donnent des informations pays. Nous sommes au Togo, c'est un étranger qui le premier avait même dit la position de notre chef d'État. Et là, j'ai dit que mais il y a un problème. On ne peut pas être au Togo et c'est un étranger qui n'est même pas qui n'est même pas proche du Togo qui nous donne la position du président de la République.
Mais il doit avoir sûrement des...
Non.
Disons des,
je crois
des,
que
des sources.
Nous avons... Nous, on veut donner la bonne information. On veut dire les choses telles qu'elles sont. Tout ce que nous disons, je vous dis, c'est de l'à peu près. Parce que vous n'avez jamais... Les gens parlent à la place du président de la République.
Les gens inventent. C'est ça. Les gens disent. C'est vrai que nous connaissons le chef de l'État togolais pour le fait qu'il a toujours prôné partout et face à tous les problèmes la paix, la diplomatie. Quand il le faisait avec le Mali, nous avions des informations. Il y avait le ministre des Affaires étrangères qui était à la manette, il disait les choses, on le suivait. D'ailleurs, récemment, avec le Soudan, comment vous appelez là ?
Oui, le Soudan du
Darfour. On était informé.
Le Darfour.
Oui, oui. Mais ici, c'est de l'omerta totale sur la bonne information. Mais j'avoue que de toutes les façons, nous acclamons, nous sommes heureux que tout ce qui se dit du chef de l'État togolais va dans l'intérêt du Togo. Parce que quand vous écoutez les dires des gens hors de nos frontières, ça va dans l'intérêt du Togo. Et c'est justement en cela que je voudrais que le gouvernement dise quelque chose. Parce qu'on ne peut pas dire du bien de vous et vous allez faire au moins ça sur ce bien-là. Pour que nous aussi, on ait la main de vouloir faire réjaillir partout où nous pouvons ce qui se fait. Mais pour ce qui concerne le Niger, j'avoue que la CEDEAO a échoué. Et si elle ne sait prendre garde, si elle ne prend garde, je vous assure qu'elle va s'éclater. D'ici 5 ans, on ne va plus parler de la CEDEAO. Vous avez une organisation où les gens ont des idées disparates. D'autres disent pour la même igname, d'autres disent de frire, d'autres disent de préparer au feu. Ça veut dire qu'il y a un problème.
D'autres disent de mourir. D'autres disent même de laisser pourrir.
Il y a un sérieux problème. Et je voudrais que les gens suivent mon regard. Nous en étions là quand les gens ont déclaré la guerre en Russie. La Russie contre l'Ukraine. La Russie était seule contre pratiquement le monde entier. Et pour moi, ça devait être une guerre où la Russie devait capituler en une ou deux semaines. Et jusqu'à aujourd'hui, on fait près d'un an et demi. On va aller à 2 ans. La Russie tient. Et je ne sais pas si les gens veulent que nous aussi, Africains, on expérimente ce qui se fait en Europe. Parce que notre paix, notre quiétude dans laquelle nous sommes, est-ce que ça dérange hors de l'Afrique ? Est-ce que les gens veulent que les Africains rentrent aussi en guerre pour que le monde soit dans son ensemble en ébullition ? Et c'est pour cela que, si tel est que ce qu'on dit du président togolais, si c'est vrai, il faut qu'il continue dans ce sens. Parce que si tout le monde devient aveugle, il faut qu'il y ait des gens qui aient les yeux et qui puissent éclairer le monde.
Et montrer le chemin.
Le chemin pour qu'on évite le chaos dans la sous-région. Sinon, démarrer une guerre au Niger n'est pas
la position en guerre de la CEDEAO. Ne fait pas du tout l'unanimité, ni même au sein des États. Et quand on fait un petit sondage des opinions populaires de la sous-région, des chefs, des parlementaires, aux ecclésiastiques, aux leaders d'opinion, la position est carrément non à l'intervention militaire. Et puis, des pays voisins du Niger comme le Burkina et le Mali ont dit officiellement que toute intervention de qui que ce soit au Niger s'apparenterait à une déclaration de guerre contre leurs deux pays, lesquels pays ont menacé Burkina Mali de sortie de la CEDEAO si jamais cette CEDEAO intervenait au Niger. Sans oublier également la position de l'Algérie, un peu également de la Mauritanie qui sont opposés. Ça, c'est dans la sous-région. Et puis la dernière fois, Jean-Baptiste, il y a le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine qui s'est réuni, qui a débattu du cas du Niger et dont on attend le communiqué officiel depuis plus d'une semaine.
On en cherche et on ne trouve pas ce communiqué justement de l'Union africaine.
C'est-à-dire, il y a embarras même à ce niveau.
Il y a embarras jusqu'à ce niveau. Ceci pour dire que les positions ne s'harmonisent pas. Et moi, je suis de ceux-là qui préconisaient, même si j'avais une voix qui pourrait être entendue, au lendemain du coup d'État au Niger. Le premier sommet que le président en exercice de la CEDEAO, le président nigérien Tinubu, avait convoqué, moi, si j'étais un chef d'État, ce que j'allais mettre comme hors du jour à ce sommet-là, c'est de mettre la révision du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. C'est la révision de ce texte-là.
Sur les traditions, quand on convoque une session extraordinaire, justement, c'est juste sur un sujet, le sujet du moment.
Oui, le sujet du moment, mais il n'y a pas de règle sans exception. Et bon, si le premier sommet n'avait pas mis cet ordre du jour, le second qu'ils ont eu à tenir devait même plancher sur ce protocole. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, on ne le souhaite pas. Et si là où nous sommes, si un autre coup d'État militaire survenait, la CDAO, bon, dans un pays, toujours en Afrique de l'Ouest, la CDAO allait se comporter comment?
On verrait bien.
La question se pose. Donc, moi, c'est ce pourquoi je dis qu'on devait mettre la révision de ce protocole sur le tapis, c'est pour dire qu'on doit réviser ce test-là pour interdire toutes les formes de coups d'État. Les coups d'État électoraux, parce que dans nos pays, on voit.
Donc, selon toi, autant nous condamnons les coups d'État militaires, autant devons condamner également les coups d'État électoraux
institutionnels et constitutionnels. On doit condamner toutes les formes de coups d'État. Et si c'est mis dans un test là, un test communautaire, je crois que si, tel que certains chefs d'État aujourd'hui tiennent le bouc pour aller faire une intervention militaire, cela allait être applaudi dans les 15 pays de la sous-région. Mais quand il y a deux poids, la politique de deux poids, deux mesures, si par exemple un chef d'État modifie sa condition pour faire un deuxième, un troisième, quatrième, cinquième mandat, on le laisse sur sa route. Et si les militaires qui se disent éclairés veulent agir au nom de pour sauver l'intérêt général de la population, on va vouloir les traquer. Je ne crois que ça ne peut pas nous amener à bon ordre. Ce qui est intéressant, c'est de modifier d'abord le test communautaire. Est-ce et là, les interventions militaires trouveraient leur raison.
Trouve la voie de sortie, surtout qu'il n'y ait pas déflagration.
Non, ça, je crois que ce qu'il faut faire,
Jacques,
au niveau de nos États, que nous puissions élire des présidents courageux. Pour que les gens soient courageux. Si vous élisez par exemple des présidents qui ont peur, qui sont des poltrons, mais attendez-vous à ça.
Toi, tu en connais un président qui soit poltron?
Non, ce que je voulais dire, que les gens soient courageux.
Mais ils sont courageux?
Ils ne sont pas courageux.
Pas du tout.
Parce que lorsque les gens vont dans des sommets, écoutez, tout de suite, quand ce que l'autre dit, on donne rapport à l'autre. Voilà ce que l'autre a dit. Et finalement, les gens ont peur de prendre des décisions, de s'affirmer. En fait, c'est ça. Et quand vous lisez un peu, vous voyez ce qui se passe un peu en Afrique, vous allez voir que c'est les militaires qui prennent les pouvoirs. Parce que ces militaires-là sont courageux, ils osent parler. Vous avez vu ce que le capitaine Ibrahim Traoré,
au Burkina,
a dit la fois passée quand ils étaient lors du sommet en Russie.
Russie
et
Afrique.
Et vous voyez comment les dinosaures se sont attaqués à lui. Au fait, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça ce que la jeunesse veut. Il faut que nous puissions avoir des chefs d'État qui osent. Les chefs d'État qui puissent également affronter ceux qui sont là, qui pensent que sans eux, l'Afrique ne peut pas marcher. L'autre aspect, il faudrait que les Africains se prennent également en charge. Je ne peux pas imaginer qu'on dise que toujours c'est l'Union Européenne qui finance la CDAO, c'est l'Union Européenne qui finance la Chine qui finance
l'Union Africaine.
Également. Non, mais écoutez, quand c'est comme ça, mais dites-moi ça, quelle indépendance vous aurez devant
là, tu poses un autre débat et il est 11h58 minutes. La lutte contre le terrorisme au Togo, dans la sous-région, le Niger, nous ont pris tout le temps, alors que j'avais inscrit également le congrès des partis politiques dans le net. Donc, on laisse ça. Ok, Rimiaou.
Non, bon, moi, je voulais dire quelque chose avant que peut-être on passe.
Oui, tu as juste 90
secondes.
Vous
savez, il ne faut pas que les gens se donnent l'impression que les coups d'État, on va les perpétrer comme ça partout dans la sous-région. Mais je crois que c'est une question de revoir
militaire,
les copies. Il faut que, puisque quand vous écoutez, il y a derrière le coup d'État, en dehors des questions terroristes qui sont évoquées, les gens expriment une certaine...
La mauvaise gouvernance,
et dénoncent certains contrats qui sont...
Les injustices par lesquelles Jacques Diakouti a commencé l'émission.
Quand je parle des contrats, je veux que les gens transcendent les choses et redéfinissent certaines bases.
Bien sûr.
Vous voyez, j'ai dit la dernière fois que il y a cette hostilité de la France un peu partout dans nos pays aujourd'hui. Moi, je serais à la place du président Macron que j'allais dévancer les événements et appeler à une rencontre entre les colonies françaises.
Les anciennes
colonies, elles sont des colonies. Laisse-moi dire ça. On est encore colonies. Donc, entre les colonies
et la France pour redéfinir certaines bases.
Dans ce sens, pourquoi les anciennes colonies devenues indépendantes ne pourraient pas s'assumer courageusement, c'est comme ça. Jacques l'a dit, et nous dit le nouveau cadre qu'ils veulent fixer.
À partir du moment où les colonies elles-mêmes ne peuvent pas dire, nous on veut revoir les copies, on veut redéfinir les contrats, on veut revoir les choses, que la France le fasse. Parce qu'aujourd'hui,
non, je Niger, préférerais encore que
ça a déjà commencé, parce que quand vous suivez le discours, quand vous suivez les discours au Mali, au Burkina et en Guinée et dernièrement au Niger, on sent une certaine résurgence de la fierté africaine.
C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut anticiper, parce que la jeunesse dans son ensemble aujourd'hui n'a que ça. Et quand on les dit au Mali, toutes les autres jeunesses se disent oui.
Alors dans ce cas, on dirait que les militaires anticipent, parce qu'apparemment dans ces pays, les militaires jouissent d'une adhésion populaire.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit que pendant qu'on y est, d'autres n'ont qu'à prendre la mesure d'anticiper.
Donc en fait, ça, ce qu'il faut dire. On va terminer avec Didier Comi.
Ce qu'il faut dire, je crois que Jacques a dit quelque chose qui n'a pas terminé. Il faut que nos chefs d'État soient courageux. S'ils subissent des pressions, si des gens les dérangent au téléphone, les gens racontent, enfin, les gens les empêchent de nous gouverner, il faut qu'ils nous associent. Vous voyez ce qui se passe au Niger. Quand la CDAO veut attaquer, vous voyez, ce sont les jeunes Nigériens qui sont qui sont debout là-bas, qui sont un peu partout dans la rue et attendent la CDAO.
Oui,
donc il faut que nos chefs d'État, s'ils reçoivent de l'ordre de quelque part, ils en ont marre, qu'ils nous le disent clairement et que nous les soutenons. Le problème, c'est que nous avons des ressources et nous n'en profitons pas. Ouais. Nous avons fait dans notre pays alors que nos ressources servent à nourrir d'autres.
C'est ça.
Aujourd'hui, il faut que nos chefs d'État comprennent cela, comme Ari Miao le dise, que des gens anticipent. Dites-nous, messieurs les dirigeants du Togo, si des gens vous empêchent de nous diriger bien, dites-nous, nous allons manifester dans la rue pour leur dire que nous voulons que vous nous disiez. Vous
et assurer notre indépendance.
Un peu partout sur le continent africain.
Alors, ça me rappelle, il y a une trentaine d'années, l'ancien ministre, paix à son âme, Yao Vivien Komlavi, qui disait à la conférence nationale, si vous mangez un plat de pâtes ou de riz et que la sauce finit, et que vous envoyez quelqu'un aller chercher la sauce, au retour, si celui-là vous racontait ce qu'il a entendu avant de ramener la sauce, vous perdriez votre appétit. Yao Komlavi, paix à votre âme. Il est midi, passé de 2 minutes. Nous excusons auprès de nos auditeurs que nous n'avons pas oublié qu'ils vont toujours intervenir sur les deux numéros qui n'ont pas changé, le 22 21 33 74, le 91 36 63 75. Et avant d'aller à la pause, nous voudrions saluer la mémoire de notre confrère Célestin Tameli de la TV2 qui nous a quittés il y a quelques jours et à qui nous souhaitons bon repos éternel pour son âme et nous inviter aussi à réfléchir sur les conditions de travail et de vie des journalistes. Maintenant que nous commençons à mourir, que deviennent nos arrières, nos époux, nos épouses, nos enfants? Qu'est-ce qu'ils deviennent quand Aliou Tchakala n'est plus, quand Lucien Diosou Mensah n'est plus, quand Joël Kosi-Vignon Ega n'est plus, quand X et Y ne sont
Isidore
plus,
Ayeko.
Isidore Ayeko et bien d'autres, nous devrions aussi avoir le courage. Ah, j'ai oublié notre James Kounaké et tous les confrères. Là aussi, c'est un débat qui devrait nous interpeller courageusement, comme Jacques le disait.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Il est 12h passé de 6-7 minutes. À présent, nous nous branchons sur vous. Vous nous avez écouté sur les deux sujets débattus principalement. Nous sommes curieux d'avoir vos commentaires, voire vos questions. Déjà un premier auditeur.
Bonjour, ça, c'est bon arrivé.
Ah, Didier.
Ouais, comment ça va?
Un plaisir à vous retrouver.
Oui, bonjour. Monsieur Tenero, bonjour.
Bonjour.
Ouais, comment ça va?
Alhamdulillah, ça va.
Alhamdulillah. Monsieur Tenero, Est-ce qu'il y a une différence entre ce que la CEDEAO fait au Niger et puis ce qu'il a fait au Togo en 2005 et en 97-98, l'année, il y a deux ans? C'est pas la CEDEAO qui nous a imposé le régime là, ici. Pourquoi on n'avait pas condamné? On se montrait que la CEDEAO faisait bien, et maintenant on ne trouve pas que la CEDEAO fait bien. Maintenant, pourquoi les partisans de Bazoum, les militaires ne laissent pas les partisans de Bazoum aussi manifester pour qu'on puisse voir là où se trouve la force? Ils empêchent les autres de manifester alors qu'ils devaient les gens dans la rue. Moi, quel qu'en soit le cas, on ne doit pas supporter un coup d'État. La situation démocratique du Niger est mille fois mieux que ce qui se passe au Togo ici. Regardez ce qui se passe au Togo. On a même parlé, il y a un chef qui est en prison, mais les prisonniers politiques, même tout ce qui est de mal gouvernement, Bolloré, il a appelé le port. Il nous a bien dit ici qu'il est venu corrompre nos diligences. On n'a rien dit. Tous les ressources du pays sont accaparées par les étrangers. On n'a rien dit. Même si je retourne au Niger, la Chine qui exploite le pétrole du Niger, non? Pourquoi on n'écrit pas la Chine de parti? Non. On ne peut pas suivre les militaires comme ça. Ils sont militaires, ils ont la force. Ils font un coup de temps, puis les suivent. Mais c'est pas dans la jungle. Il faut commencer à être civilisé. Parce qu'ils ont la force. Celui que tu es censé garder, tu le fais un coup d'État. Je dis toujours que c'est comme moi gardien à la maison, ma tâche, et puis on a perdu le gardien. Mais non, c'est pas normal. Il faut qu'il laisse le pouvoir. Si moi je prends mes gens là, c'est d'abord pour les faire partir, je serai le premier. Si j'avais cette possibilité. Je vous remercie.
Merci beaucoup Didier. C'est ça l'avantage du débat libre et ouvert. Le deuxième, bonjour.
Bon. Bonjour mon directeur.
Ah, Papa Sibiti.
Comment? Bonne arrivée.
Merci beaucoup.
Je suis très content.
Et moi,
je vous prierai de laisser vos choses de. Oh, toi, diminue. De laisser de démocratiquement élu. C'est parce qu'on est démocratiquement élu qu'on est obligé de faire ce que les gens ne veulent pas. Si les militaires font les coups d'État, c'est compte tenu de quelque chose.
Oui.
Les militaires aujourd'hui ne sont plus comme les autres. C'est des docteurs, des agrégés. Et puis la CEDEAO, ce que je dis, si elle peut avoir les états-majors là, ils n'ont qu'à faire les états-majors pour aller combattre les djihadistes et nous laisser en paix. Ou bien j'ai tort.
Merci Papa Sibiti. Nous attendons nos militaires plutôt sur le front de la lutte contre l'insécurité tous azimuts, que les problèmes politiques se règlent de préférence par des canaux diplomatiques et politiques. Troisième auditeur, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Moi, c'est Monsieur Akakpo.
Monsieur Akakpo, vous nous appelez de Lomé?
Oui, je vous appelle de Lomé.
De quel quartier, s'il vous plaît?
De Tochi.
Tochi?
Oui.
Eh bien, nous écoutons.
Ok. En fait, moi, je me pose une question souvent. Hein. La CEDEAO, justement, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je ne comprends pas. Quand dans un pays, il y a un problème, la population qui crie que ça ne va pas, ça ne va pas, la CEDEAO ne réagit jamais. Mais quand il y a coup d'État, la CEDEAO se prononce. La CEDEAO, il est là pour le président ou bien il est là pour le peuple? C'est la question que moi, je me pose, en fait.
Merci.
Et quand les gendarmes, les policiers, les militaires vont faire les coups d'État, là, c'est parce qu'ils en ont marre. D'abord, cherchez d'abord, on dit souvent, quand vous avez mal quelque part, cherchez d'abord là où la cause. Quand il y a coup d'État, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne cherchez pas, vous devez d'abord chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans le pays. On ne peut pas. Pourquoi en Europe, il n'y a pas de coup d'État en Europe? C'est parce que ça ne va pas chez nous ici, ça ne va pas, donc il y a coup d'État. Il faut chercher d'abord à savoir qu'est-ce qui ne va pas réellement dans le pays.
Merci à vous, l'ami Akapo. Je vous rappelle que la CEDEAO, créée en 1975, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils veulent renforcer l'intégration économique, le libre passage des personnes et des biens. Mais faites un tour à la FLAO et vous me direz si vous pouvez aller au Ghana facilement et revenir. Faites un tour à Sanvi Kondi et vous me direz si vous pouvez aller facilement au Bénin et revenir. Le quatrième auditeur aujourd'hui, bonjour.
Sass, bonjour.
Oui.
Je salue tout le plateau.
Évangéliste Senghor.
Ah, mon frère, ça fait longtemps là, Sass.
Biasma.
À la fia, bronga, oui.
À la fia.
Bonsoir, Wazimio.
Eh bien, Jacques Yakouti qui est Peul veut aussi nous comprendre. Donc, revenons en français, s'il vous plaît.
Ok. Bon, vraiment, merci beaucoup pour le plateau.
Merci.
Bon, tout d'abord, je tiens à saluer la saillie de mon grand frère Fonya Singbe. Vous voyez que Ponyasinga renie ses pères.
Sauf que il n'est pas officiellement admis que Fort Gnassingbé a telle position ou telle position.
Ah bon?
Oui.
Ok. Donc vous savez, moi, qu'est-ce que j'allais dire dans cette crise du Niger? Quand il y a un problème, il y a une crise en tant que des sailles. Moi, je dis que nos chefs d'État là, c'est des personnes qui ont été à l'école. Bon, mais ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils se jettent. C'est comme l'homme là, l'homme de car là. Et qu'on a reçu aujourd'hui ce matin, là, disait que c'est comme les enfants qui s'amusent au dépotoir.
Jean Kissi.
Jean Kissi, voilà. C'est tout comme les enfants qui s'amusent au dépotoir. Il y a une crise. Cherchez à savoir qu'est-ce qui amène cette crise-là. Maintenant, il faut aller se jeter, il faut aller tuer nos frères. Aujourd'hui, nous avons les Togolais qui sont au Niger, hein. Et les Nigériens se plaignent aussi au Togo. Et moi, je dis que je remercie Dieu pour la vie de Fort Gnassingbé. Parce que si, effectivement, Ça se dégénère. Mais tenez-vous bien. Qu'est-ce que nos Togolais, les Togolais qui sont au Niger vont devenir? Non, il faut qu'on dise la vérité. Merci. Voilà maintenant Bazoum qui disent qu'ils vont quand même le faire chaud. C'est-à-dire que, je ne sais comment dire, mes frères. C'est-à-dire que la personne entre les mains de cette justice-là, il est entre leurs mains. C'est la première personne qui va en découdre avec. Donc, dans ce que je voudrais dire, que l'Afrique aujourd'hui, ce n'est plus comme l'Afrique de 1940. Il faut que les gens réfléchissent pour voir, pour que la CEDEAO sache que ce qu'il y a des mains. Et à l'époque, ils ont créé, ce n'était pas ça aujourd'hui. Vraiment, que Dieu bénisse l'Afrique. Hein.
Merci beaucoup. Merci. Une auditeur nous signale que, à l'endroit des chefs d'État, que c'est d'abord une affaire de militaires. Entre frères d'armes, comment est-ce que les militaires de la CEDEAO vont aller tirer sur leurs frères d'armes au Niger pour restaurer un civil au pouvoir? C'est la réflexion de cette auditrice que nous nous permettons de partager avec vous. Nous passons le micro au suivant. Bonjour.
Ah, bonne arrivée.
Merci beaucoup. Ah, Komi.
La santé avant tout, vraiment.
Ça fait chaud au cœur de retrouver les amis.
Oui.
Et avec les amis, on est très fort, hein. Attention, FORT.
Oui.
Avec les amis.
Pas REE.
Ah, bah, moi, je parle de fort FORT. Allez-y, Komi.
C'est le bienvenu.
Merci beaucoup.
Monsieur Sass,
oui.
Moi je pose la question de savoir, quand il y a djihadisme, il y a terrorisme au Mali, au Niger et puis au Burkina, on sent que il y a peut-être l'or, le pétrole, l'uranium que les gens gardent ou bien pour lesquels ils se luttent. Maintenant, le cas Togo là, c'est quoi au juste ces gens la veulent? Parce que quand nous prenons la zone, aucune ressource minière n'est, comment dirais-je, évoquée, et la zone même est délabrée, mais on attaque.
Oui, mais comme quand on écoute certains géostratèges, ils disent que les djihadistes chercheraient des accès à la mer. C'est pourquoi ils cherchent les couloirs du Togo, du Burkina, plutôt du Mali, et si jamais ils pouvaient accéder à la mer, alors c'est les trafics qui allaient exploser de façon vraiment, vraiment exponentielle.
L'accès à la mer, c'est vers un écho. Ou bien ils ont tourné le tour.
Comme quelle est la distance entre Lomé et Saint-Cassé? C'est en une journée, Komi.
Okay,
je ne sais pas si vous avez fait le voyage. C'est en une demi-journée. Tu quittes Saint-Cassé, tu arrives à Lomé.
Ok. La seconde préoccupation, est-ce que c'est par rapport à la position du Togo dans ces crises qu'on nous attaque? C'est la seconde préoccupation. Merci.
Je vous en prie, la seconde préoccupation, je l'adresserai bien volontiers aux stratèges du Togo ou d'ailleurs pour éclairer notre lanterne. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour mon patron.
Ah, Patrick.
C'est comment?
On reste toujours commandant pour le moment.
Non, tu prends colonel.
Ok. On verra ça en temps opportun.
D'accord. Je salue tout le monde sur le plateau. Hein.
Merci.
Bon, monsieur Sam, je pense que le problème du Niger là, il va falloir que nous fassions très 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 attention sur ce qui se passe là-bas. C'est vrai. Il y a un coup d'état. Je ne peux pas aussi vous dire que moi, qui vous parle présentement, je sais ce qui se passe là-bas. Non. Parce qu'il y a un coup d'État. C'est parce qu'il y a un problème qui ne va pas.
que les militaires se sont levés, malgré que ce n'est pas conseillé, on doit respecter la Constitution. Mais s'il avait déjà tiré et qu'il est même qu'il est quand même amer, qu'est-ce que nous allons faire? C'est encore ajouter, c'est-à-dire de feu, c'est-à-dire de l'huile au feu, ou bien comment nous allons faire pour que ce vin-là puisse être diminué un peu, pour qu'on puisse le boire. C'est ça, je pense, qu'on doit faire. La CEDEAO qui est censée de faire régner la paix dans les régions, c'est-à-dire à l'Afrique de l'Ouest, se permet de dire d'aller militairement, depuis le premier jour, ça me dérange jusqu'à présent. Parce que le peuple, vous savez, est de l'autre côté, la face B de la chose. Le peuple nigérien n'est pas d'accord sur ce qui se passe là-bas. Hein. Mais, comme ils se disent qu'il y a un pays étranger derrière qui est la France, c'est pourquoi le peuple s'est rallié derrière, c'est-à-dire les militaires. Il va falloir qu'on comprenne cela. Donc, il va falloir qu'on trouve l'autre, l'opposant là. Bon, si je peux l'appeler ainsi, l'Ivoirien là. Il avait dit, sur TV5 Monde, que quel avion fait crash. Il faut chercher une boîte noire pour savoir concrètement ce qui s'est passé. L'avion a fait crash. Vous voyez, mais pourquoi les autres avions ne subissent plus la même scénario? Je pense qu'on doit trouver la solution pacifique de militer pour l'option militaire. Merci.
Je vous en prie, l'ami Patrick. À la technique me signifie que le temps imparti aux auditeurs a expiré. Juste que nous fassions ici un rapide tour de table. En 30 secondes, vous avez écouté les auditeurs qui sont revenus presque exclusivement sur le cas du Niger. Dans un sens, ils ont partagé nos commentaires ici. Dans un autre sens, ils sont allés sur d'autres développements. C'est le propre du débat contradictoire qui est riche. Jacques Yakouti.
Non, je crois que Harry Miao avait avancé tout à l'heure une hypothèse par rapport au Togo. Il faudrait aujourd'hui que le ministre des Affaires étrangères, M. Robert Doucet, il est vrai qu'il est trop dans les airs. À un moment donné, il faut qu'il revienne sur terre pour vraiment travailler à côté de son patron. Parce que ce qui se passe aujourd'hui...
Mais il est en service pour son patron, justement.
Non, à un moment donné, il faut quand même désigner... Il a des collaborateurs qui peuvent également faire certaines choses. Il n'a qu'à rester à côté de son patron pour l'aider à travailler. Parce que c'est le moment de travailler. En matière de diplomatie, vu la crise aujourd'hui que le Niger traverse, vous voyez aujourd'hui les diplomaties au Bénin, la diplomatie en Côte d'Ivoire, un peu partout, on voit que les ministres des Affaires étrangères s'agitent aux côtés, effectivement, de leur patron pour pouvoir l'aider à aller...
Et surtout, ils parlent pour informer leur opinion nationale.
Vraiment, ça, vous avez très bien fait de mentionner cela. Il faudrait que... on supplie M. Robert Doucet, M. le ministre, abandonnez quelque temps pour les avions. Prenez les voitures, allez tout le temps à Lomé 2, travaillez avec votre patron pour le bonheur, effectivement, de la diplomatie togolaise par rapport à la situation au Niger.
Merci. À propos de la position du Togo, peut-être que Robert Doucet... un peu partout, hein, c'est le ministre des Affaires étrangères qui prend position. S'il ne le fait pas, Harry Miao, le gouvernement compte quand même deux porte-parole du gouvernement. Comment on peut comprendre que nous retrouvions tout le pays, nous journalistes premiers, sevrés d'informations, alors que nous avons deux ministres porte-parole du gouvernement très jeunes, très dynamiques, que nous aimons beaucoup, mais qui nous abandonnent en ces temps-ci, Harry Miao?
Eh bien, effectivement, on est tenté de nous poser cette question-là. Et moi, je me dis que s'il y en a jusqu'à deux, c'est parce qu'on veut communiquer intensement. On veut que les informations soient à la portée de tout le monde, surtout nous, journalistes. Vous voyez qu'après les conseils de ministres, l'un ou l'autre des deux ministres vient exprimer à la presse tout ce qui est...
Ça, nous avons salué cette initiative.
On a salué ça. Mais maintenant qu'on garde le silence et qu'on nous laisse...
Patauger
et faire tout ce que nous pouvons à la faveur, hein, à partir des réseaux sociaux, je crois que c'est pas bien. Les deux ministres porte-parole peuvent quand même rencontrer la presse et dire, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, la position du gouvernement togolais. Et ça va nous enrichir. Ça va nous permettre, nous autres, de faire du vrai travail. Vous avez vu que il y a un auditeur qui a appelé tout de suite et qui s'est mis à dire exactement ce que nous voyons dans les réseaux sociaux et qu'il fait porter ça au Togo dans son ensemble. Alors, vous l'avez recadré en lui disant qu'on n'est pas à 100% rassuré de ce qu'il dit. Donc, il faut que le Togo communique parce que le Togo fait toujours de bonnes choses. Même le gouvernement. Il y a de merveilleuses choses que le gouvernement fait mais qu'on ne porte pas la connaissance des populations qui ignorent qu'on leur fait des choses. Donc il faut aller, parce que c'est important pour nous. Mais pour conclure, je reviens pour dire que l'intervention, qu'elle soit militaire ou je ne sais quoi, au niveau du Niger, est déjà un échec. Et je dis que le président déchu, Bazoum, n'aime pas son peuple. Je dis que Bazoum n'aime pas le Niger. Je le redis, il n'aime pas le Niger. Nous avons vu la même chose. On ne fait pas l'apologie des coups. Honnêtement, on ne fait pas l'apologie des coups. On ne veut personne pour les coups d'État. Mais ça s'est passé au Burkina. Quand les gens ont proposé de venir intervenir, Marc Christian Kabore a dit, si c'est pour moi seul, qu'on va venir tuer mes compatriotes, je préfère m'en aller. Et je crois que cette hauteur, cette sagesse manque à Bazoum. Même si on intervient aujourd'hui et qu'on dit que Bazoum est rétabli, il ne peut pas diriger le Niger. Ça veut dire qu'on va amener des mercenaires.
Si Niger avait pour le démissionné, même
le pays.
Son premier poutiste, Dalital également, mis en difficulté, a été avait démissionné.
Quand les gens s'organisent à venir,
l'amour de son pays va dépasser nos propres
c'est
personnes.
Didier,
je rappelle que c'est 30 secondes.
Je fais rapidement, je dis que je crois fondamentalement que nous avons naturellement au Togo deux porte-parole du gouvernement. Mais il faut que les ministres aient une parole à porter. Et donc, s'ils n'ont pas de parole à porter, ils ne pourront rien dire. Donc, je crois que vous n'aimerez pas être à la place de ces deux ministres actuellement.
Comme parce qu'ils n'ont pas de... être à nous aussi, notre place.
Oui, comme personne n'aimerait à la place des journalistes. Parce qu'ils n'ont pas de parole officielle à porter. Donc, s'il n'y a rien à dire, si on ne leur a pas dit ce qu'il faut dire, ils ne vont pas parler. Je crois que le ministre des Affaires étrangères est en train de faire. Il est ministre des Affaires étrangères, il n'est pas ministre des Affaires intérieures. Donc, je pense que son travail, c'est peut-être aller au Niger, voir ce que le Togo peut faire là-bas. Je crois que chacun est en train de jouer son rôle, mais il faut que officiellement la présidente de la République donne quelque chose au porte-parole du gouvernement à dire aux médias. Peut-être que le président peut parler. Pourquoi pas organiser une conférence de presse comme Ado l'a fait pour dire officiellement la position du Togo. Mais maintenant, sur le Niger, je veux que la CEDEAO et nos chefs d'État comprennent que ceux qui dirigent depuis quelques jours le Niger ne sont pas des étrangers. Ils sont eux aussi des Nigériens au même titre que Bazoum. Si Bazoum était si important, donc ça veut dire que les autres également qui sont en train de diriger le Niger actuellement sont importants. Ce ne sont pas des gens importés de quelque part.
L'ensemble d'accord, mais Didier, le problème c'est le canal par lequel on peut devenir président du pays.
Là je reviens, donc tout le monde est contre les coups d'État et à chaque fois pour le principe nous les condamnons ici. Mais je crois que même pour ce coup d'État là, c'est la CEDEAO qui est légitimé ce qui se passe actuellement au niveau du Niger. Et donc, il faut que la CEDEAO aille discuter avec les gens pour trouver, je l'ai dit la dernière fois ici, pour trouver un canal de libération pour Bazoum et lui trouver un exil quelque
merci,
part.
Merci. Après, on termine avec toi, Kodjovi, Jean-Baptiste.
Oui, je crois que nous le disons, la CEDEAO a fauté et sur toute la ligne. Si on se rappelle ce qu'elle avait fait en 2018 au Togo où les deux émissaires qui étaient là, le président guinéen Alpha Condé et son homologue je crois du Ghana qui étaient là, ils avaient dit concernant la crise togolaise en 2018 qu'ils n'ont pas un syndicat de chefs d'État qui sont là pour protéger les intérêts des peuples au sein de la CEDEAO, mais ça n'a pas fait à peine un an et demi. Lui-même, il a commencé par faire un troisième mandat avant qu'un militaire éclairé ne lui fasse le coup d'État. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Papa Sibiti tout à l'heure, on ne fait pas l'apologie des coups d'État militaires, je le rappelle bien, mais c'est que arrive à un certain moment donné, les militaires aujourd'hui qui font des coups d'État, militaires qui sont plus ou moins civilisés, parce que quand on se rappelle, dans les années 60, on fait les coups d'État, on tue les chefs d'État. Donc aujourd'hui, on rend grâce à Dieu. Ils le font, mais sans tuer les présidents. Ils sont vivants. Donc, c'est pour dire que on ne doit pas se cacher derrière un chef d'État qui s'impose parfois sous le sceau de président démocratiquement élu, alors que parfois les gens sont imposés.
Merci beaucoup.
Et condamner le coup d'État militaire.
Très riche. Il n'y a pas de meilleure façon de nous souhaiter la bienvenue en début de semaine qu'un tel débat, bien que nous eussions souhaité que ce fût plus varié. Mais on verra bien dans les jours à venir. Et nous rappelons ce que Jean Cocteau a déjà écrit, que l'harmonie, c'est la conciliation des contraires et pas l'écrasement des différences. C'est avec cette phrase que nous allons digérer hein, cette émission, en vous souhaitant une bonne suite de la journée, avec l'espoir de nous retrouver à 11h, si Dieu le veut. Et pasteur Jacouti, Dieu le voudra demain, n'est-ce pas?
Il l'a déjà fait.
Amen.
Canal FM.